I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs et non pas par des sociétés extérieures. Aujourd'hui, nous remercions les formidables Guillaume, Xavier Filleul, Yebinama, Live, Mo Fourouard et Shane Wolfen. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et dans cette émission, on vous fait un petit condensé de l'actu de la tech pour que vous n'ayez pas besoin de consulter les sites et les blogs pour avoir une vision d'ensemble. Et on laisse aux sites et aux blogs, bien sûr, le soin de vous donner les détails et les informations les plus précises. Sites et blogs comme par exemple ceux du réseau Humanoïd ou de Numérama, ce genre de choses, dont, au hasard, nous avons aujourd'hui avec nous un des représentants, à savoir Ulrich Rosier. Comment ça va, Ulrich ?
Ça va très bien, retour du Mobile World Congress, j'ai dormi tout le week-end.
C'est bien, t'es en forme pour l'émission.
Ça va.
Et on ne mentionnera bien sûr pas le fait que tu étais en pleine partie d'Overwatch au moment où l'émission devait commencer et que tu as quitté précipitamment tes coéquipiers en leur disant oui. « Ah, je dois partir ».
Mais c'était
juste avant un début de partie, donc ça va.
En classé en plus, et ils étaient pas contents.
Quel sacrifice on ne fait pas pour le Rendez-vous Tech. Mais évidemment, ça vaut bien sûr le coup, puisque nous avons aussi avec nous notre ami Jeff Clavier, qui nous rejoint de la Silicon Valley en direct par la puissance de l'Internet. Comment ça va, Jeff ?
Ça va très bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et non, vous n'entendrez pas le tap-tap de mon... de mon micro et de mon vieux casque qui date d'il y a à peu près 10 ans, c'en est un nouveau et je ne vais pas marcher, donc a priori on ne fera pas de bruit.
Oui, bah écoute, j'allais pas le mentionner, mais puisque tu le fais, c'est vrai qu'on a eu quelques remarques sympathiques, hein, constructives, et effectivement il était temps qu'on
attends,
corrige
putain,
un petit
tu fais chier avec ton micro de merde, c'est constructif. C'est sympathique, ok. Merci les gars.
J'en ai vu des plus gentils. Quand même.
Bon, c'est en tout cas le truc à retenir, c'est que aujourd'hui la qualité sera a priori bonne. En tout cas, je l'espère parce que je suis pas chez moi là, je suis chez mes parents pour différentes raisons et donc on est sur une petite connexion ADSL de classique. Donc on va voir si la qualité reste quand même correcte entre la campagne française, Paris et la Silicon Valley. Écoutez, comme je le disais, la puissance de l'Internet semble rendre tout ça possible.
C'est fort.
Tu le mentionnais, Ulrich, on va parler du Mobile World Congress, où il y a eu des choses passionnantes qui se sont passées. On va aussi parler d'Uber, qui avait eu une petite période de calme ces derniers mois et qui là s'en est pris plein la figure. Et
ah,
sans doute,
s'en est plein la gueule, surtout, oui, oui. Surtout ce week-end là, c'est ouh.
On va vous détailler tout ça, vous allez voir. Et puis bien sûr, on évoquera la sortie de la Nintendo Switch. Alors pour l'aspect vraiment jeu vidéo, on en parlera dans le prochain rendez-vous jeu. Mais on évoquera un petit peu la réception du hardware et de ce que ça donne. Mais commençons avec le Mobile World Congress, où j'ai envie de demander en fait à Ulrich ce qu'il y avait à en retenir, parce que moi j'ai suivi ça bien sûr, mais j'ai pas vu grand chose de vraiment éblouissant, si ce n'est que peut-être, allez, deux tendances à noter. D'une part, ceux qui ont brillé, c'était Samsung et Apple par leur absence. C'est-à-dire que vraiment, c'est les deux aujourd'hui qui sont...
Semi-absence de Samsung.
Ouais, en tout cas, ils n'avaient pas leur nouveau téléphone, le Galaxy S8. Et puis l'autre truc, c'est l'incroyable, l'émerveillant Nokia 3310 qui fait son retour à 50 euros. C'était la star du salon, n'est-ce pas ?
Mais il y a quelques autres trucs sympas aussi. Effectivement, Nokia. En Nokia, c'est marrant parce que les avis étaient très mitigés. Donc, en gros, ils ont présenté un 3310 revisité. Donc, avec un écran couleur, mais qui reste un feature phone. Donc, c'est-à-dire un téléphone simple, portable, qui reste 2G, ce qui est surprenant parce qu'on a des feature phones 4G maintenant. Et donc, à ton avis, enfin, je sais pas si vous savez à quoi ça sert la 4G sur des feature phones, mais.
Disons qu'au moins la 3G aurait pu être vaguement intéressante, mais là,
ouais,
ils ont vraiment
mis en
avant.
On a la 4G qui arrive sur les téléphones simples pour deux raisons. La première, c'est que le réseau 2G est démantelé.
Ah.
Tout est, on dit, c'est du refarming, ça passe en 4G en gros, donc c'est pour ça que les téléphones 2G ont tendance à disparaître, même sur des téléphones très simples. Et ensuite, parce qu'on a des fonctionnalités comme la voix HD qui arrive sur ce genre de téléphone.
D'accord.
Mais voilà, ils ont présenté un téléphone 2G, donc les gens étaient plutôt, je trouve, déçus. Et à côté de ça, ils ont une belle gamme Android, donc plutôt entrée de gamme, bien construit. Ça reste du téléphone chinois, mais moi j'étais agréablement surpris par la qualité.
C'est sous licence. Pour HMD, c'est HMD qui les construit. Mais bon, voilà, au-delà de la blague du 3310, dont on a eu quelques exemples d'utilisation, on en plaisantait à l'épisode précédent, on a eu quelques exemples d'utilisation assez cohérents. Donc, bon, pourquoi
ils
pas.
Ils ont
c'est
eu
vrai
une méga com hallucinant. Mmh. Je veux dire, je pense que c'était le stand le plus rentable. Il était blindé.
Oui.
Ils ont eu des papiers partout. C'est des papiers qui ont fait une audience incroyable sur tous les médias. Chez nous, c'est genre de l'ordre du ratio 2-3 par rapport à l'autre news qui était. Qui était la sortie du LG G6, qui était l'autre grosse audience chez nous.
C'est ça. Mais alors, effectivement, on sent l'affect qui reste très, très fort pour la marque Nokia et puis même pour ce 3310. Mais bon, au-delà de ça, effectivement, il y avait le G6, mais plus largement, avec le G6 inclus, bien sûr, qui a l'air quand même sympathique. Qu'est-ce que tu en as retenu, toi, de ce MWC, comme on le disait ?
Non, moi, j'en ai... Excusez-moi. J'en ai retenu pas mal de choses. J'en ai retenu déjà qu'on est dans une période de transition qui va durer encore 2-3 ans. C'est-à-dire qu'on est à l'arrivée de la 5G qui était omniprésente dans tout le salon. On pourra en parler rapidement parce que c'est intéressant. On commence vraiment à pouvoir se projeter avec la 5G. Et d'ailleurs, du coup, tout le monde attend les usages, tout le monde attend les appareils compatibles. Et du coup, t'as l'impression que le marché, il est un petit peu en stase, tu vois. Les objets connectés, il y en avait quasiment plus. Ça, c'était surprenant. Il y a encore un petit peu de marketing mobile parce qu'il y a tout le hall 8 qui est dédié à la promotion des applications. Mais c'est très fatigant parce que c'est toujours la même chose chaque année. Et donc, quelques nouveaux appareils donc, qui étaient surprenants dans le sens où on a eu un LG G6 qui est je sais pas si vous l'avez vu, c'est son design en fait qui a plutôt surpris parce que déjà, il a un écran qui prend une très grande partie de la surface avant du téléphone. Donc, c'est en gros vers cette tendance qu'on va en termes de design de smartphone. Donc, LG l'a bien compris. On a ensuite BlackBerry qui était de retour ils sont déjà de retour, mais c'est le premier appareil qui a été conçu par TCL, donc Alcatel, pour BlackBerry. Donc c'est un appareil qu'on trouvera seulement chez BlackBerry, alors que les appareils d'année dernière étaient des appareils Alcatel rebrandés aux couleurs de BlackBerry. Donc celui-ci s'appelait le KeyOne et il adopte le clavier physique. Que tout le monde connaît, qu'on retrouvait sur les, je m'en rappelle plus, c'était sur le BlackBerry Prime et avant c'était sur les Bold.
Oui,
c'est ça.
C'est le clavier super populaire. Moi, ça me paraît quand même. Bon, il y a des gens qui l'aiment, mais là, on a un écran complet et en plus un clavier, ça fait un téléphone un petit peu allongé. Encore que non, c'est un format normal,
non,
mais
en
du
fait,
coup
le
l'écran est un
top.
Peu plus. Ouais.
Le seul problème qu'il a, ce téléphone, c'est son prix. Il est à 650 €, avec un processeur qu'on trouve normalement autour de 400 € sur des produits à 400 €. Donc, c'est difficile de justifier cette différence de prix juste par le clavier et juste par la
partie
logicielle.
C'est la tentative de BlackBerry de se différencier encore. À vrai dire, ils n'ont pas vraiment le choix, quoi. C'est la fuite en avant.
C'est plutôt TCL, du coup. TCL, ils ont la marque Alcatel qui occupe deux tiers du segment et après, t'as la marque BlackBerry qui occupe le dernier tiers. Plutôt premium, on va dire, avec des produits qui sont un peu de meilleure qualité. On a ensuite, en fait, on avait aussi Huawei qui a mis à jour son Huawei P9 en P10. Petite mise à jour du design qui, du coup, s'approche un peu plus de l'iPhone. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est toujours un appareil de qualité qui n'a rien de surprenant au-delà de ses deux capteurs à l'arrière. On avait, il y a deux autres choses qui m'ont vraiment surpris. Il y a Meizu qui a fait une très belle annonce sur une charge ultra rapide. de smartphones. Donc eux, ils sont capables, leur techno n'est pas prête, elle sera prête en début d'année 2018. Mais en tout cas, ils ont fait la démonstration d'une techno qui s'appelle Super M-Charge, qui charge un téléphone en 20 minutes, de 0 à 100%.
Ah oui, pas mal, effectivement.
C'est pas mal.
C'est la tendance aussi, l'une des autres tendances, cette supercharge, enfin charge rapide qu'on voit un petit peu partout. Bon, du coup, des téléphones effectivement intéressants. Peut-être celui qui sort encore plus du lot, c'est ce LG G6 quasiment sans bord, avec un processeur un petit peu plus ancien, mais bon, qui reste très correct. Donc, pour les téléphones...
Ouais, magnifique écran. Hein. Mm-hmm. Et puis, il y a aussi un zoom de chez Oppo, qui s'appelle le Oppo 5X, qui est un zoom 5X. Donc, c'est un zoom périscopique. Qui est intéressant parce qu'il va un peu plus loin que ce que Apple avait fait avec l'iPhone 7 Plus. C'est-à-dire que, en gros, voilà, ils sont capables de faire un... Alors, on ne sait pas vraiment si c'est de l'optique 5X, mais en tout cas, le zoom était plutôt impressionnant pour un zoom de, un capteur de, et objectif de smartphone, en fait.
C'était, d'accord.
C'était vraiment impressionnant, je trouve. Mais bon.
Donc, mais voilà, j'ai quand même,
de révolutionnaire, quoi.
C'est ça, t'as beau me décrire tout ça, et je suis sûr que si j'étais en train de chercher un téléphone aujourd'hui à acheter, bah, je regarderais tout ça pour savoir lequel est le meilleur, et je suis sûr qu'il y en a dans notre audience
qui... Ça reste dans le marché des
smartphones. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais y a rien qui me saute à la, au visage, me saute aux yeux en me disant, ah ouais, bah non, ça c'est cool, tu vois, ça reste, c'est un peu, on soupire un peu, quoi. Enfin,
il y avait l'ombre du Galaxy S8 et de l'iPhone, du prochain iPhone qui était partout. J'ai l'impression que tout le marché attend ces deux produits, en particulier celui de Samsung, parce qu'il sera annoncé du coup fin avril,
semaines,
même date officielle maintenant. Donc tout le monde attend cette annonce, hein. C'est sûr. Ils attendent pour plusieurs raisons. Ils attendent déjà pour voir la tendance du marché, voir comment Samsung va se positionner. Et surtout parce que Samsung, ils ont bloqué tout le haut de gamme sous Android, hein. Étant donné qu'ils ont réussi un petit peu à s'accaparer le fameux Snapdragon 835, qui est aujourd'hui le processeur, le SoC haut de gamme qu'on retrouve sur mobile. Et bien en fait, les autres ont rien à se mettre sous la dent en attendant que les stocks soient disponibles.
Ouais, parce qu'ils ont tout acheté. Mais alors, voilà. À part les téléphones, est-ce qu'il y avait des trucs... Bon, il y a eu quelques tablettes, sans détailler les trucs, mais...
Rien de fou. À part ça, il n'y a rien eu d'impressionnant.
Rien dans les, en fait, dans les wearables, enfin dans la technologie portée, dans les... J'ai vu le truc de...
Il y a quelques
petits
robots domestiques connectés, mais on les connaissait déjà. Quelques drones, mais on les connaît déjà. Il y a DJI qui a annoncé un drone professionnel, mais j'ai l'impression qu'ils ont juste profité de l'événement. Il n'y avait rien de très calculé, tu vois.
Bon, alors un peu moins de réalité virtuelle aussi, les yeux tournés vers la 5G. Quelle conclusion t'en tires de ce MWC, Mobile World Congress?
J'ai l'impression que c'était vraiment un salon de transition.
Ouais.
J'espère que ça ne va pas durer trop longtemps. J'espère que l'année prochaine, on aura des produits compatibles 5G peut-être qui seront annoncés, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que tous les acteurs, que ce soit les opérateurs, les équipementiers, ont envie d'aller plus vite sur la 5G. Au début, on a annoncé 2020-2022, c'est ce que Orange annonce encore, mais il y a déjà des opérateurs qui s'engagent pour 2018-2019, alors que le planning initial était vraiment 2020. Donc j'ai l'impression qu'ils veulent gagner un an, voire deux ans sur le planning. Et ça va peut-être accélérer tout ça. Et donc la 5G, on commence un petit peu à se projeter. Donc on aura des débits plus élevés, on aura une latence qui sera plus réduite, ça va permettre beaucoup plus d'usages. Il y a des usages qui sont un peu moins évidents, c'est par exemple le cas du véhicule à véhicule. On va pouvoir, grâce à cette latence réduite, permettre aux véhicules de communiquer plus facilement entre eux, mais aussi avec l'environnement, par exemple un feu rouge. Donc ça, c'est important de pouvoir réduire le temps de transmission des données. On a aussi les capacités, donc ça c'est Orange qui présentait ça, mais tous les opérateurs le présentaient, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de connecter beaucoup plus d'utilisateurs, donc ça va assurer une meilleure connexion dans des lieux très chargés. Mais du coup, en fait, ils sont vraiment sur la 5G, on aura une connexion partout, que ce soit à la campagne, dans des bâtiments ou dans des lieux très chargés, très denses, on va dire. Voilà, ils essaient d'assurer une connexion. On se pose plus la question de savoir où on est pour avoir une connexion.
Ouais.
C'est un petit peu ça qui est amené par ces technos, qui est en fait un ensemble de technos, en fait,
ouais,
très différents.
C'est peut-être aussi, effectivement, avec l'espoir d'avoir une fonctionnalité supplémentaire à proposer pour qu'il y ait des renouvellements d'équipements. C'est une stratégie commerciale aussi, et peut-être que c'est pour ça qu'ils poussent un peu. Maintenant, quand ils disent 2018-2019, bon, on sait combien de temps mettre ces infrastructures à s'installer, parce qu'il faut poser les antennes, il faut, etc. Même si on peut en réutiliser certains emplacements, etc. Bon, ça prend du temps de déployer tout ça.
Mais il y a quatre étapes qui sont essentielles. Il y a l'étape de théorique qu'on a passé, sur lequel on est encore, c'est-à-dire ils ont encore des problèmes. Par exemple, ils vont utiliser des ondes, on appelle ça des ondes plus grandes ondes, on va dire, et ils ont des soucis, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte que l'environnement, même des feuilles d'un arbre peuvent bloquer ces ondes-là.
Ça va être pratique, dis-moi.
Ouais, c'est les ondes télémétriques, ouais. Ce type d'ondes, très grosses ondes, on va dire, ils ont encore des soucis, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de l'additionner avec des ondes plus classiques, courtes, comme celles qu'on utilise en 4G. Et il faut du coup utiliser les deux types d'ondes pour pouvoir assurer, en fonction de l'environnement, une connexion stable et rapide.
D'accord. Bon.
Après, il y a l'étape de. Là, on va passer dans l'étape de test, je pense, l'année prochaine.
On a déjà des tests ici et là.
En laboratoire, la plupart du temps.
On a vu aux États-Unis déjà certains opérateurs qui commencent les tests maintenant depuis un ou deux mois ou un petit peu plus, mais c'est le début.
En fait, ils parlent de 4G+, la LTE Advanced, et ils ont la tendance à la brander en 5G.
D'accord.
Voilà, on est encore en cours de standardisation de la 5G. Donc, c'est-à-dire, on ne connaît pas encore exactement les caractéristiques de ce que ça sera, mais en tout cas, ça commence à devenir de plus en plus clair.
D'accord. Bon, ben, un petit peu, effectivement, de temporisation pour ce Mobile World Congress. Toi, Jeff, je sais que t'as pas vraiment suivi le truc parce que, c'est pas hyper intéressant, mais est-ce que c'est, un truc qu'on voit dans la vallée, genre le Mobile World Congress? Bon, ça va, ça vient, on s'en fout. Enfin, bien sûr, il y a des gens qui s'y intéressent, hein, mais c'est pas non plus l'excitation ultime, j'imagine. Est-ce que ça a toujours été le cas, ou est-ce que c'est une, deux dernières années, c'est un petit peu plus tiède qu'avant?
C'est vraiment ça. C'est-à-dire que le Mobile World Congress, c'était un endroit où pas mal de startups allaient sortir des produits, allaient passer du temps, etc. Et je pense que sur les deux, trois dernières années, ça a perdu un peu de la place prépondérante que ça avait dans le monde du mobile, puisque en fait on est dans une phase un peu post-mobile, c'est-à-dire que bon, effectivement, on a des milliards de téléphones, on a des dizaines de millions d'applications, mais c'est pas forcément ce que les gens vont regarder comme les phases d'innovation les plus intéressantes. Et donc très honnêtement, cette année, j'ai absolument pas fait attention à ce qui se passe au Mobile Congress. Je pense que la 5G, c'est une réalité qui est intéressante en termes d'infrastructure, mais c'est à part ça, quoi.
D'accord, ouais. Et quand tu dis on est dans une phase post-mobile, où est-ce qu'elle est allée, cette attention, en fait? Est-ce que c'est sur les chatbots? Est-ce que c'est allé où?
C'est l'intelligence artificielle au sens large. On a un concept qu'on appelle le rise of the machine, donc le développement des machines.
Ça sonne pas du tout apocalyptique, ça.
Ça fait absolument pas apocalyptique ou Terminator, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, ça regroupe tout ce qui est intelligence artificielle, réalité augmentée, développement du côté de tout ce qui est autonome, que ce soit les véhicules, les drones, les camions, etc. Et les robots au sens large. Donc quand tu essaies d'avoir un thème fédérateur, The Rise of the Machine, c'est quelque chose que j'aime bien.
D'accord.
Et c'est vraiment là où on va passer beaucoup de temps. Je dirais que salut, j'ai une app, ça prend beaucoup moins d'intérêt de notre part, même si en fait tu as des services qui ont un composant interface utilisateur au travers d'une app, et ça, on en a encore.
Bien sûr.
Mais
oui,
c'est pas franchement aussi intéressant qu'il y a 2-3 ans, où on était encore en train de développer l'écosystème.
C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, ça a été intégré à l'écosystème, justement, à l'infrastructure, et bien sûr, il y a des apps partout, mais c'est pas ton point de focalisation, c'est pas le point central, quoi. On va pas dire, hey, regarde, j'ai une app, c'est genre,
j'ai un service, ouais. Et en fait, il y a beaucoup de services aujourd'hui qui essaient de se mettre à disposition des utilisateurs au travers d'une interface messaging, que ce soit Facebook Messenger, que ce soit WhatsApp, etc., de manière à ne plus avoir besoin de passer au travers de cette première étape qui est je vais télécharger une application, parce que les coûts de téléchargement sont devenus prohibitifs quand tu essaies d'acheter un téléchargement, sauf pour les applications dans le domaine du jeu.
Quand tu veux dire acheter un téléchargement, c'est faire en sorte que ton utilisateur télécharge ton app, quoi. Ce qu'il faut, tout
voilà,
ce qu'il faut faire.
Voilà, c'est-à-dire que tu fais de la promotion, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, de manière à amener les gens à télécharger ton app en disant bah viens jouer avec moi à tel jeu ou va télécharger telle application et fais ceci, ceci, cela. Et en fait, quand tu regardes le coût d'acquisition ou le coût de ce téléchargement, ça devient prohibitif pour les gens qui n'ont pas un modèle de business établi. Et c'est le cas pour la plupart des startups, sauf dans le domaine du jeu.
D'accord. Bon, bah écoute, Rise of the Machine, je pense que le 3310 est en fait l'espion, l'infiltré qu'on a depuis des années et qui va réussir à nous imposer cette nouvelle ère de la machine. Ça aura commencé par le 3310 et on s'en était pas aperçu. Bon bah on continue avec les déboires d'Uber dont je pense que tout le monde a entendu parler ces derniers temps. J'imagine que vous en avez fait quelques papiers, Ulrich, sur les différentes publications.
Ça marche très bien, je...
Ouais. Tu confirmes.
Je confirme.
Il y aurait plusieurs choses dont on pourrait parler. Il y a eu, ça a commencé il y a une dizaine de jours avec des accusations de harcèlement sexuel et de sexisme institutionnel presque chez Uber qui sont venus raviver des plaies qui existaient déjà dans la gestion de l'entreprise avec tout un tas d'affaires qui sont venues s'additionner les unes aux autres qui ont fait beaucoup de bruit. Mais l'affaire sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on discute, c'est celle qui est venue ensuite s'additionner encore plus, ensuite à ce premier problème qu'ils avaient avec le harcèlement et ces problèmes de relations, de ressources humaines, qui est celui du greywalling, c'est-à-dire qu'ils avaient fait intégrer à leur système d'app. Peut-être que je peux te laisser l'expliquer, Jeff, parce que j'ai l'impression que tu as suivi ça d'assez près, mais c'était un moyen d'exclure certaines personnes qu'ils ne voulaient pas, genre des concurrents ou de l'administration, auxquels ils ne voulaient pas donner accès aux services, donc aux voitures. Ils avaient un moyen de les profiler et de les exclure, genre de leur faire croire qu'il n'y avait pas de voiture disponible, quoi, c'est ça ?
Voilà, de manière à ce que c'est grosso modo ça, de manière à ce que les agences du gouvernement, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau des différents États ou des différentes villes, ne puissent pas reporter d'informations à propos du trafic, à propos de ce qui se passe avec Uber. Ils avaient développé un programme où ils avaient en gros essayé de deviner quelles étaient les personnes et les endroits qu'il fallait éviter de servir avec le produit. Et donc, imagine, tu étais à côté du bureau d'une agence de transport, par exemple à San Francisco. S'ils pensaient que tu étais en fait un agent de cette agence, ils allaient te dire qu'il n'y avait pas de Uber disponible.
Non, mais c'est hallucinant, ça. Enfin, on est d'accord, c'est invraisemblable.
C'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est sneaky, et surtout la grosse question, c'est à quel niveau d'illégalité ça va tomber, puisque il y a des endroits, par exemple en Oregon à Portland, je crois qu'ils ont déjà commencé à se poser la question de comment ils allaient attaquer Uber en justice, parce que de par les lois locales, c'est complètement interdit de discriminer de cette façon-là.
Non mais clairement. Et du coup, alors on a parlé des problèmes de harcèlement, on a parlé de ce problème-là. Il y a aussi le problème du président d'Uber, Travis Kalanick, qui s'est énervé dans une voiture en parlant à l'un des chauffeurs et en se mettant à pas l'insulter, mais enfin limite à l'insulter. Il y avait
pas l'insulter. Tu m'excuses. Si c'est pas une insulte. Je sais pas ce que tu l'appelles.
Ouais, j'ai regardé la vidéo, peut-être que j'ai adouci le truc inconsciemment dans la tête, mais j'avais l'impression qu'ils avaient une discussion. Peut-être que c'était moins fort que ce que je pensais voir quand j'avais lu l'article, mais c'est sûr qu'il s'est énervé, il l'a engueulé, et puis l'autre, ils sont... Et c'est le genre de truc que tu peux pas faire quand t'es... On a l'impression que c'est un enfant qui a été mis dans une position qu'il n'arrive pas du tout à gérer, et d'ailleurs lui-même a publié un article disant je suis il faut que j'ai plus de guidance dans mon travail de CEO et je n'ai pas bien fait mon travail et machin, mais enfin clairement ça fait des, parce que là on en reparle maintenant, mais Uber ça fait des mois et des années qu'ils ont ces problèmes, alors avec en plus cette histoire de Grey Walling complètement. J'imagine qu'il y a des cas de figure où tu peux utiliser ce genre de technique pour certaines choses. Je sais pas exactement lesquelles, mais j'imagine que ça a pas été fait uniquement dans le but de se dire on va faire un truc illégal. Mais il n'empêche, là les conséquences vont être, j'imagine, graves pour Uber légalement. Et puis au-delà de ça, quelle est maintenant leur image dans le microcosme de la tech? Je pense que les gens, bon, il y a quand même beaucoup d'investisseurs qui voient des signes dollars dans leurs yeux parce que Uber continue à grossir, mais ça doit changer la perception quand même, non?
Oui, puis faut pas oublier non quand même que avant les problèmes de que ce soit du sexisme ou que ce soit donc les problèmes de relations avec leurs ingénieurs féminines qu'on a découvert dans les 15 jours derniers, il y avait la campagne Delete Uber qui s'est passée à la suite de... Quand Travis a fait partie de ce groupe de travail qui était autour de Donald Trump, et que tout le monde s'est mis à dire « bah si c'est comme ça, je delete Uber », il y a une campagne delete Uber qui a créé un réel problème pour le business, puisque leur concurrent Lyft a vraiment eu un bump, une augmentation de téléchargement et de trafic qui était plus que significatif. Donc ça a commencé par delete Uber. Après, tu as eu le problème d'agression sexuelle ou de
harcèlement,
de comportement, oui. de harcèlement sexuel qui était absolument incroyable. Après, tu as le problème de la vidéo de Travis qui se met à pourrir un pauvre... En gros, le mec a acheté une voiture pour conduire pour Uber basée sur les économiques qui étaient celles du début. Et le mec dit, en gros, j'ai acheté la voiture et maintenant je suis bankrupt parce que ce que tu me payes en tant que chauffeur Uber a diminué de façon catastrophique. Et Travis derrière dit c'est pas de ma faute, c'est la faute de compétiteurs, et c'est là-dessus qu'ils vont s'engueuler,
ouais.
Se cracher dessus. Et puis derrière, tu as le Grey Walling, donc ça fait quand même c'est quatre problèmes. Et le Grey Walling après c'est quasiment le pire parce que c'est là où tu vas avoir clairement des positions qui sont potentiellement illégale et potentiellement très très sérieuse. Alors ça a été communiqué par des employés d'Uber qui étaient a priori impliqués dans ces algorithmes de Grey Walling, qui ont dit bah, je vais pas me retrouver en taule parce que clairement Uber est en train d'être sous le microscope, donc je balance ça pour que je sois au minimum pas attaquer. Et donc tu te demandes très honnêtement, ok, c'est qu'est-ce qui va tomber cette semaine, quoi.
Ouais, mais du coup est-ce que ça veut dire qu'on arrive à un point où même les investisseurs, comment, enfin, parce que soyons clairs, Uber reste une machine absolument énorme, ça reste un truc qui a un potentiel financier hyper important. Là les investisseurs doivent être d'ailleurs on en a entendu pardon, j'ai les noms quelque part dans les notes, mais je les retrouve plus. Mais il y a quelques investisseurs de longue date qui commencent à dire maintenant ça suffit. C'est pas qu'ils vont faire marche arrière et dire bon on veut plus d'Uber parce qu'il y a quand même un pactole potentiel à la clé, mais Par contre, est-ce qu'ils vont commencer à demander la tête de Kalanick, quoi? Est-ce qu'ils vont se dire maintenant c'est terminé? Et certains d'entre eux, comme je le disais, ont commencé à dire ça fait des mois et des années qu'on essaye de faire entendre raison au président de la boîte, on n'y arrive pas, c'est un problème. Donc, quelles sont les suites qui peuvent arriver? Encore une fois, soyons réalistes, Uber va pas exploser, mais est-ce que Travis Kalanick va devoir, si ce n'est quitter la boîte, au moins laisser sa place de CEO à quelqu'un d'autre?
C'est une très bonne question. Effectivement, alors ça, il y a eu Chris Sacca, qui était un des angels d'Uber. Il y a eu quelques autres investisseurs qui se sont positionnés autour des problèmes d'harcèlement sexuel, le fait que ça n'avait pas été du tout traité par les gens des RH, parce qu'en gros, ce qui s'était passé, c'était des ingénieurs qui étaient importants pour la boîte, qui s'étaient conduits comme des porcs, et plutôt que de les virer à coups de pompe dans le cul, qui était la seule façon dont tu peux gérer ça, la boîte en gros disait non, mais c'est rien, c'est la première fois, c'est un super performer, donc on peut pas y toucher, etc. etc.
Y compris c'est la première fois quand ça faisait plusieurs fois que ça arrivait, quoi. C'est ce qu'on a entendu.
C'est la première fois pendant un an, en gros. quelques jours plus tard, bon, il y a donc un SVP engineering, un patron de développement qui s'est fait virer parce qu'il venait de chez Google, où il a vu la même conduite. Il ne l'avait pas déclaré à Uber et Uber l'a instantanément viré, ce qui était approprié. Donc ils ont commencé à prendre des mesures pour fixer ça. Et donc il y a eu qu'est-ce qu'il a fait? C'était Mitch Kapoor. Donc l'inventeur de Lotus 1-2-3, qui a pris une position ouverte. En disant bon, ça fait des années qu'on essaye de pousser Uber à avoir une approche beaucoup plus équitable, qui puisse favoriser l'embauche d'ingénieurs femmes. Et en gros, ils ont écrit en public que c'était impossible d'avoir une politique telle que celle d'Uber, et qu'il fallait que ça change.
Alors, ce qui est un acte hyper fort quand même. Je veux dire, quand des investisseurs viennent parler en public des problèmes qu'il y a dans la boîte dans laquelle ils ont investi, c'est qu'il y a une vraie crise. Enfin, là, on le comprend.
C'est qu'il y a une vraie crise. En gros, t'essaies toujours de tout faire en catimini, de manière à ce que la boîte puisse, enfin, ne perde pas la face et fasse des progrès. Et quand tu prends la démarche grave de le faire en public, ça veut dire que t'as tout essayé, t'as pas réussi, quoi. Mmh. Alors, pour répondre à ta question qui est, est-ce que Travis va quitter Uber? Ça, franchement, j'ai du mal à le voir parce que Uber est arrivé où ça en est, où la boîte en est, c'est-à-dire en termes de revenus, en termes de pénétration, en termes d'agressivité, grâce ou parce que Travis est à la tête. Et Uber sans Travis, c'est plus vraiment Uber.
Donc tu crois qu'ils voudront le garder quand même, quoi. Mais du coup, ils lui mettent une...
De toute façon, que tu sois... Enfin, je me rappelle pas de la cap structure, mais je serais super surpris que les investisseurs aient une possibilité de virer ou de remplacer Travis, de toute façon.
Mais ils peuvent si c'est comme ça, s'ils menacent de vendre, par exemple. Enfin, il y aura toujours des gens pour acheter, remarque. C'est eux qui perdent.
Mais tu peux pas... Il y a des pactes d'actionnaires, il y a tout un tas de documents légaux, et quand tu as une boîte comme Uber ou comme Snap où il y a une telle demande pour son stock, généralement les fondateurs ou les dirigeants font en sorte de bien verrouiller le truc. Et donc par exemple, il y avait une grosse discussion autour des actions de Snap, donc qui est allé public, qui vaut maintenant sur le papier une trentaine de milliards, même s'ils perdent de l'argent à chaque fois qu'ils font entrer un nouvel utilisateur. Mais ça,
on a eu l'arrivée. D'ailleurs, je voulais te poser la question à propos de Snap, mais peut-être qu'on en parlera un petit peu après. Mais vas-y, continue. Ouais.
Et donc, les deux fondateurs ont verrouillé complètement leur position, et c'est impossible de les virer. Et donc, je serais pas surpris que ce soit la même chose avec Travis. Et puis, le fait de dire je suis pas content en tant qu'investisseur par rapport à ce qui se passe, par rapport à la conduite de la boîte, ça c'est une chose, mais il faut pas oublier que tout le monde va faire des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards, grâce à Uber le jour où il sort sur les marchés publics. Mmh. Et donc, ça, tu peux pas l'oublier. Donc,
ouais,
tu essaies de faire changer les choses, mais tu vas quand même faire un paquet de pognon. Et Uber est quand même une des. Ce sera potentiellement avec Facebook un des plus gros taux de retour pour le monde du VC. Et donc, tu vas pas aller tuer la poule aux œufs d'or.
Ouais. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y aura pas de conséquences à tout ça?
Tu as des conséquences. De toute façon, le public réagit, c'est-à-dire que Lyft aujourd'hui, et les gens vont préférer, tu vois, par exemple, mon épouse hier, elle a viré l'application Uber, elle a downloadé Lyft, et à partir du moment où elle utilise Lyft, pourquoi ? Parce qu'elle se désolidarise de la boîte. Et aujourd'hui, à San Francisco ou dans la vallée, objectivement, que tu appelles un Lyft ou que tu appelles un Uber, ça revient au même. C'est à peu près le même prix, c'est à peu près la même rapidité. Donc, tu votes avec tes pieds ou avec ton téléphone. Tu vires Uber et tu appelles Lyft. Bon, ça, c'est une chose.
Et ce genre de mouvement s'amplifie, là, par contre, ça peut avoir des conséquences sur la gestion de la boîte. Enfin, sur la tête de la boîte, j'imagine.
Oui, et même si ça n'a pas... l'impact en tant que tel sera, à mon avis, relativement limité, parce que c'est un petit peu la goutte d'eau dont tout le monde parle, mais qui ne fait pas déborder le vase. Je pense que si on regarde, le fait qu'il y a une bande de crétins qui doivent se faire virer au niveau des couches de management d'Uber. Bon, donc il y a un problème de culture, il y a un problème de management, il y a un problème d'ambiance, parce que je peux te dire qu'aujourd'hui, être chez Uber, ça doit pas être joyeux. Le fait que le greywalling va commencer à créer une situation d'embrouillat légal où, à mon avis, il y a des tonnes d'investigations qui vont se faire au niveau des États et au niveau fédéral. C'est le mois fin février, début mars, bonjour quoi. Et je ne sais pas à quel moment ils avaient prévu d'aller sur les marchés publics. Parce que ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, ils ouvrent leur situation financière et ils les mettent à la disposition du marché. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'ils veulent faire. Très honnêtement, ils ont une valo de 70 milliards à justifier. Et à mon avis, et ça je ne le sais pas, mais comme beaucoup de boîtes, ils ont très bien pu lever de l'argent à des valos très hautes en ayant des structures un peu compliquées, où si jamais tu n'atteins pas une certaine valo lors d'un exit ou d'une IPO, à ce moment-là, ça a un effet potentiellement négatif sur l'ensemble de la cap structure, ça pourrait commencer à être un gros merdier. Quoi. Mmh.
D'accord. Ulrich, vu de la France, enfin moi quand j'y pense en fait, je me dis il n'empêche Uber, ça reste quand même une app super pratique et c'est un truc que je continue à utiliser et que je vais continuer à utiliser. Est-ce que tu crois qu'il y a des alternatives ?
En France, 90% du marché est Uber.
Ah, c'est ça, ouais. Il n'y a pas d'alternative, quoi.
Si, on en a, mais ça va être valable dans des très grandes villes comme Paris. On va avoir Snapcar, on va avoir chauffeur privé, mais ça reste. On a l'affaire Hitch, dont on parle beaucoup en ce moment. Mais c'est un VTC, tu sais, qui a accompagné les jeunes en fin de soirée. C'était pas vraiment du VTC dans le sens où ils étaient restés dans le créneau un peu Uber Pop, où t'as des particuliers qui accompagnaient des particuliers. Et eux, ils avaient continué alors qu'Uber Pop avait été arrêté. Ils avaient décidé de continuer parce qu'ils pensaient que leur créneau était du vrai covoiturage. Ils justifiaient ça par des chiffres de revenus qui étaient très bas par rapport à des VTC. Et ben ils ont été jugés la semaine dernière. Ils ont décidé de fermer leur service. Les deux cofondateurs ont des lourdes amendes. Et ils ont fait tout le week-end une manifestation digitale. J'ai un petit peu regardé. Ça reste à l'échelle nationale, mais du coup, ils ont essayé d'implorer un peu les candidats à l'élection présidentielle pour qu'ils prennent
position. Qui ont d'autres soucis en ce moment, je crois.
Qui ont d'autres soucis, voilà. Et les pauvres, c'est quand même une boîte qui avait, je crois, 60-70 salariés quoi, en France. Mm. Une start-up française qui, qui on l'avait quand même pas mal parlé.
Ouais.
Mais les pauvres, ça tombe au mauvais moment pour eux, quoi, cette prise de décision. Je pense que c'est raté. On verra la suite, mais.
Mais pour le coup, effectivement, Uber. Bon, vous avez Lyft aux US. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils soient en France. Lyft, je me trompe peut-être, mais je crois pas.
Non, ils sont pas en France. Ils ont très peu de présence internationale. Hein,
ouais,
Lyft,
c'est ça.
Quasiment que américain.
Et du coup, là, tous les problèmes dont on parle sont déconnectés du marché des VTC par app, quoi. Et malheureusement, ça veut dire qu'en France, c'est un petit peu compliqué. Alors, on peut toujours prendre un taxi. N'oublions pas l'évidence. Mais
tu sais, j'étais à Barcelone. C'est marrant parce que l'année dernière, pour le Mobile World Congress, l'année dernière, où il y a deux ans, j'étais en Uber. Et donc, Uber est totalement interdit maintenant. Ils sont absents totalement. Et donc là-bas, tu trouves MyTaxi, qui est, je crois, une boîte allemande qu'on trouve aussi à Berlin. Et donc, moi, j'ai utilisé MyTaxi. On a à peu près la même expérience, sauf que c'est du taxi.
Et tu as la carte bleue qui peut être intégrée à l'app.
C'est facturé directement sur la carte bleue. Tu suis le driver, tu as tes reçus par mail.
D'accord.
Tu as même le tips que tu choisis. Tu peux lui mettre 0%, 5, 10 ou 15. Et. Il y a même le système de notation où j'ai eu un taxi qui voulait pas me ouvrir la porte tant que je l'avais pas noté.
C'est vrai.
Ouais, et en plus ils ont des astuces à la con, c'est que comme ils veulent pas payer la commission, je pense à MyTaxi, bon, j'ai pris 5-6 taxis là-bas pour me déplacer entre les événements, et il y en a un, il a regardé où j'étais, il a annulé la course MyTaxi, il est venu me chercher et m'a dit oh, désolé, il y a eu un bug sur l'app. Il m'a demandé de payer derrière. C'est quand même de malin, les taxis.
Ah là 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 là. D'accord.
Et, on s'est bien fait avoir entre l'aéroport et le centre-ville. On l'a pris, donc on était 9, donc on a pris 2 taxis. Et il y en a un, il a eu 30 euros pour le trajet, et l'autre, il a eu 64 euros. Oh. Pour le même nombre de personnes dans les voitures.
Oh là là. Mais tu sais, j'allais dire, ah mais ouais, mais c'est cool du coup, une app comme ça, parce que c'est vrai, les apps qu'on a eues en France qui étaient censées faire ce genre de trucs avaient beaucoup de problèmes. On pouvait pas mettre la carte bleue directement dans l'app. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça. Oui, bien sûr. Ouais. Mais les expériences dont tu me parles, c'est quand même une bonne partie des problèmes qu'on évoque à moitié en plaisantant quand on parle des problèmes des taxis. C'est marrant que ça se répercute quand même encore, même quand ils essayent
Je pense que les mauvaises habitudes, ça se perd pas comme ça.
Ouais. Et c'est des problèmes qu'on n'a pas vraiment.
En Congrès, ils doivent se dire qu'il y a une bonne manne financière.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Beaucoup de pigeons peut-être à avoir. Mais...
Bon, donc voilà pour les déboires d'Uber, effectivement, chez qui ça... Moi, j'ai l'impression, au final, que ça va être plus... Ça va mener, enfin, on espère, à un nettoyage qui va faire... qui va amener Uber à son statut de ce qu'elle est, c'est-à-dire une boîte immense qui a besoin d'être gérée comme une boîte immense et plus comme une petite start-up agressive et qui vit dangereusement, quoi. Donc, bon...
Le problème, c'est qu'ils sont devenus énormes en très peu de temps grâce à cette situation, ce focus de Travis à essayer de pousser les gens au maximum. Et clairement, sans cette attitude qui a créé une culture un peu pourrie ou assez pourrie, ils n'en seraient pas où ils sont là. La question, c'est comment, après avoir passé 6 ans, 7 ans, dans cet environnement, comment tu changes tout, quoi. Comment tu arrives à faire un reboot de cette culture. Et ça va pas être évident parce que ils ont 11 000 personnes maintenant.
C'est pas une boîte qui doit juste devenir un peu plus mature, mais c'est pas juste des étapes normales dans le développement d'une boîte.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a toujours dans la partie quand tu te lances et que t'es une start-up et que t'as besoin justement d'être agressif.
Mais en plus, avec leur croissance, il y a des étapes qu'ils ont brûlées, c'est sûr. Donc il faut bien qu'ils.
Bien sûr. Mais je veux dire,
faut pas sous-estimer la difficulté que représente un reboot de culture, parce que c'est vraiment, c'est toutes les personnes, c'est la façon dont ils font les choses, ça veut dire potentiellement virer une partie des managers, que ce soit technique ou pas.
Est-ce que vous avez vu comment ça marche en France, par exemple? Ils ont très très peu de salariés. La plupart sont des intérims avec qui ils fonctionnent sur des contrats de 2 à 12 mois. Je crois que 90% des personnes avec qui ils travaillent, c'est de l'intérim. Hein.
Mais ça aide pas non plus, justement.
Ça aide pas. Qu'est-ce qui va gérer la merde, quoi?
ça aide pas, mais bon, les changements sont plus faciles à appliquer quand t'as peu de salariés et que t'as un fonctionnement comme ça, je veux dire. Mmh. Je pense, mais après.
Ouais, mais non, justement, effectivement, la question de la culture est compliquée à gérer parce que surtout si t'as pas d'employés, tu vois, c'est encore pire. Mais
ils ont peut-être un peu plus aux US, je suis d'accord.
Oui, ça va, oui, certainement.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Oui. Enfin, non,
ils ont des milliers d'employés ici au siège à San Francisco, mais c'est le problème, c'est comment tu arrives à faire machine arrière, à tout changer, à garder la partie agressivité en termes de vitesse d'exécution, mais en perdant l'agressivité de la culture de l'entreprise. Et c'est ça où c'est pas évident du tout. Et je pense pas que ça veut dire.
Après, ils ont des dynamiques en place.
Mais,
hein,
ça veut dire qu'ils doivent faire rentrer une nouvelle équipe de management qui aura un peu un sang neuf et qui pourra recrédibiliser, si j'ose dire, une politique de changement. Ouais. Parce que dire non, mais on va tout changer, mais tu changes pas les personnes. Ce sera pas crédible.
Mais bon, un marché comme le marché Google, français, ils ont,
non, mais le marché français, oui, enfin, ils s'en foutent du marché français, tu vois, c'est pas ça.
Ah ouais, mais au final, je pense pas que quand tu additionnes le nombre de marchés et de régions qu'il peut y avoir comme le marché français, ça doit pas être.
Oui, mais à la base, il faut que ça change. À mon sens, s'ils font une approche à la Google et qu'ils engagent un Eric Schmidt ou Eric Schmidt, justement, c'est pour ça que je dis, il faut un adulte, quoi, tu vois. Il faut quelqu'un qui arrive et qui dit, bon, maintenant, ça se passe comme ça. Et effectivement, ils vont perdre de leur agressivité. C'est normal, c'est mécanique. Mais là, je crois que c'est compliqué que ça dure encore, encore que j'en sais rien, hein, tant que ça marche.
Non, puis bon. La question, c'est que quand tu vois tout ce qui s'est passé dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent de passer, qu'est-ce qui va exploser, quoi.
Et c'est vrai que je m'étonne à quel point ils se sont dit que c'était stratégique de lancer cette app de triche sur le marché. Je me suis demandé, mais comment ils ont pu prendre
l'algorithme, c'est
décision,
c'est,
quoi.
Oui, oui. Bon, écoute, peut-être que l'enquête nous amènera des réponses sur le sujet.
Mais je pense qu'ils doivent être très peu pour avoir pris ce type de décision.
Ah oui,
bien sûr.
J'espère.
Ouais, c'était autant Travis a pu dire non, j'étais pas au courant.
Ça se trouve, c'est une décision unilatérale, carrément. Enfin,
Non, attends. Tu fais pas un truc de. Alors, soi-disant qu'il y a moins d'une cinquantaine de personnes qui étaient au courant, mais c'est pas un clampin au milieu du management qui un matin s'est réveillé. Oh, bah tiens, on va éviter tous les mecs de. Attends, ça vient forcément.
Non, mais je trouve ça juste fou, quoi.
Ah bah, on est d'accord.
Un jour, ça allait sortir, quoi.
Ouais, ouais. Mais tu sais, c'est toujours.
Il y a tellement
de
salariés qui l'ont utilisé, tu vois, qu'à un moment, c'était sûr qu'il allait y avoir des.
Non, mais attends, c'est exactement la même chose que Volkswagen qui s'est fait choper à falsifier. Ouais, les émissions de leur voiture, et d'après ce que j'ai entendu, tout le monde le fait, mais Volkswagen est le seul qui s'est fait prendre avec la main dans la paquet de cookies.
Bon, peut-être que j'ai trop d'éthique alors dans ma façon de voir l'économie.
Et donc tu parles, comme de toute façon toutes les agences, toutes les villes, tous les États à un moment ou à un autre a voulu se mettre en travers de la croissance du beurre, étant donné leur approche très agressive. C'est la façon dont ils l'ont géré et ils l'ont développé. Et peut-être qu'au début, c'était on va empêcher les mecs de la mairie de San Francisco d'accéder à Uber. Et puis, en gros, c'est devenu du code qui était productisé, quoi.
Ouais. Tiens, je peux utiliser ton truc pour tel truc. Ouais, bon, ok, attends, on le dit à personne. Et puis ensuite, mais attends, pour machin, ça serait pratique de l'utiliser là aussi. Ouais, d'accord.
Voilà.
Bon. Enchaînons après cette grosse partie Uber qui ne résout finalement rien mais qui est intéressante sur la sortie de la Nintendo Switch qui est donc disponible depuis quelques jours à peine et que j'ai récupéré et donc on va pas trop parler des jeux. Oui, tu l'as aussi Ulrich, très bien, tu pourras m'en parler.
Du jeu quoi.
Oui, du jeu. Encore qu'il y a beaucoup d'indés maintenant qui sont annoncés.
Ouais, t'as fait un tour sur le store
Oui, oui, il n'y a pas grand-chose, mais ça va venir petit à petit. C'est triste. C'est sûr que... mais bon, au-delà de Zelda Breath of the Wild, on vous en parlera dans le rendez-vous jeu la semaine prochaine. On a déjà enregistré un rendez-vous... un Pixels en anglais. Si vous parlez anglais, vous pouvez aller écouter ça avec mon ami Scott Johnson. Mais donc, la console elle-même, on le rappelle pour ceux qui l'ignoreraient encore, on ne sait pas d'où vous avez été caché pendant ces derniers mois. c'est une console qu'on branche sur la télé, comme n'importe quelle autre console, mais qui est toute petite et qui est munie d'un écran, et du coup on peut la débrancher de la télé et la prendre avec soi et elle devient une console portable. Alors ça c'était la promesse. Dans les faits, dis-moi Jeff, est-ce que toi tu as été séduit, intéressé par la Switch ou tu t'interdis les jeux vidéo maintenant que t'es un grand vrai travail?
Voilà, tu sais bien que le jour où j'ai rendu ma cape de raider sur World of Warcraft, j'ai dit adieu à une partie de moi-même qui était le gamer en moi, et donc je n'ai plus touché à un truc de jeu depuis ça.
Et alors, ça te tente pas la Switch, l'idée d'avoir une console qui est portable aussi autant qu'à la maison ?
Non, très honnêtement, non. De temps en temps, je me dis, putain, je retournerais bien dans World of Warcraft et je ferais bien un raid ou deux avec mon hunter, mais avec mon chasseur, mais non, j'étais beaucoup plus MMO qu'autre chose en tant que joueur.
Eh ben écoute, la console en elle-même, je vais dire ce que j'en pense en un instant et puis tu nous diras, Ulrich, si tu es d'accord ou pas, mais... Okay. Je la trouve au final assez bien construite, assez bien conçue. Pour le prix des 300 € qui me paraissait vraiment la fourchette haute de ce que pouvait faire Nintendo, je trouve que c'est pas décevant. C'est-à-dire que là où Nintendo faisait souvent du matériel qui faisait un petit peu jouer, un petit peu plastique, on a aujourd'hui avec cette console Switch un résultat qui est assez probant, qui est solide, bien conçu. Quand les petites manettes sont accrochées, on a vraiment l'impression d'avoir un appareil entier et pas des machins qui pendouillent. Et puis surtout, la promesse de c'est vraiment utilisable en portable et c'est vraiment utilisable sur la télé, elle est tenue, au-delà des petits problèmes techniques comme une des manettes qui se désynchronise, ce genre de choses sur lesquelles on va passer, mais donc la promesse est tenue et vraiment ça fonctionne. Et du coup, on a évidemment une rupture de stock aujourd'hui qui est totale, même si les premiers chiffres qu'on a semblent indiquer que les stocks qui étaient disponibles n'étaient pas suffisants pour faire un lancement absolument canon. Le succès du lancement, qui ne veut rien dire sur le succès sur le long terme, mais le succès sur le lancement semble être plutôt là. Et le succès me semble, au niveau matériel en tout cas, justifié, là où j'avais quand même quelques doutes dans les semaines qui ont précédé le lancement justement. Ulrich, toi, est-ce que t'es convaincu par le concept, le matériel de la Switch?
Clairement, moi j'étais sceptique parce que des tablettes j'en ai testé plus d'une centaine. Et puis j'étais un peu sceptique sur ses caractéristiques. Mis à part le Tegra, que je trouvais il est très léger, il est un peu trop léger pour la télé, mais qui est très bien conçu pour la tablette. Il n'y a pas mieux en fait pour une puissance mobile aujourd'hui en termes de GPU. Mais si je me trompe pas, il n'y a pas mieux.
Mais bon, c'est vrai que c'est un peu léger. Il y a X2 qui arrive, mais bon.
Oui, mais il est pas prêt quoi. Je veux dire, aujourd'hui, il est sur aucun produit. Ils en parlent un peu sur l'automobile, mais et en plus. Je me rappelle, la Switch devait sortir en septembre l'année dernière, donc.
C'est vrai.
Donc c'était sûr que cette solution n'était pas prête. Beaucoup de gens l'ont espéré, mais pour moi, j'y croyais pas du tout. Moi, j'étais persuadé que ça serait le même CPU que sur la Shield Android TV. Mm-hmm. Et c'est le cas.
Mais alors donc. Donc toi, ça.
Donc moi, je trouve que le matos est très bon malgré mes craintes par rapport au hardware. Je suis vraiment surpris par la machine que j'ai pas débranché son socle, donc j'utilise pas en mobilité. ça prend beaucoup de plaisir à jouer sur la télé, mais peut-être que ça changera. J'appréhende un peu la fin de Zelda parce que je sais pas quoi jouer après.
Alors oui, ça c'est le problème.
Je crois qu'elle va rester 2-3 mois un petit peu cachée en attendant qu'il y ait un autre jeu qui m'intéresse, mais surtout que malheureusement elle a pas d'autres applications, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé retrouver au moins un YouTube ou un Netflix dessus. J'aurais trouvé une autre utilité à cette tablette, mais ça arrivera plus tard. Donc
mais alors justement, peut-être
patienter un peu, quoi, je pense.
Peut-être que l'utilité sera sur certains jeux qui sont disponibles à jouer à plusieurs en mode portable, tu vois. C'est de là que vient l'intérêt principal de la console, c'est que tu peux la trimballer avec toi et tu as ces deux petites manettes qui se débranchent et qui sont indépendantes, qui peuvent être utilisées par deux joueurs différents.
Pour le moment, à part Mario Kart qui arrive, il n'y a pas grand-chose qui s'annonce.
Du côté des indés, tu sais, on a Sniper Clips, qui est un petit jeu indé mignon. On a... est-ce qu'on peut jouer à deux à Fast Remix, peut-être pas. On a Bomberman, on a Puyo Puyo Tetris qui va arriver.
Non, mais c'est vrai, t'as pas tort, mais Bomberman, ça fait mal quand même. T'as vu 60 euros.
Il est moche. Non, et puis il est moche, et puis oui, je suis d'accord.
60 euros, quoi. Moi, j'ai testé One to Switch, donc que Nintendo m'a prêté, mais bon, c'est marrant une heure, quoi. Donc,
ouais, et encore.
Puis en plus, il faut se lever du canapé.
c'est l'inconvénient. Mais oui, non, au final, effectivement, pour cette petite partie Switch, je pense que la conclusion à laquelle j'arrive et que je voudrais donner aux auditeurs, c'est que peut-être on va pas dire contre toute attente, mais contre certaines attentes, le concept fonctionne. La machine est satisfaisante dans sa construction, et du coup, alors c'est la première étape, ça veut pas dire que tout est réussi ou que tout est raté, comme je disais.
C'est clair, c'est qu'elle a mis une claque à la PS Vita.
Heureusement, elle a 6 ans,
la PS
Vita.
Et surtout, elle nous explique que le jeu vidéo mobile, c'est possible en dehors du smartphone.
C'est un petit peu ça qui est l'opportunité de la Switch, c'est que encore aujourd'hui, malgré les années de jeux vidéo sur mobile, les expériences de gamers, de vrais gamers entre guillemets, hein, même s'il y a des jeux tout à fait compétents sur smartphone, les expériences de gamers console ou PC, ou plutôt console, on va dire, n'existent pas finalement vraiment de manière convaincante sur smartphone. Et donc cette place alors il y a des jeux bien sur smartphone, mais c'est pas les mêmes, tu vois.
Expérimentation de produits Android un petit peu hybrides.
Oui, mais ça a pas fonctionné, tu vois.
Ça n'a pas pris. Hein. Et donc, un peu sur l'émulation, il y a des choses intéressantes.
Mais donc la place reste à prendre, et je pense que possiblement, et contrairement à ce que dit je crois que Jeff doit filer.
Oui, malheureusement, j'ai mon prochain rendez-vous qui vient d'arriver.
D'accord.
Donc je vais vous dire merci encore pour un super rendez-vous tech. Désolé si on a parlé un peu trop du beurre, mais je pense que c'était important de passer un peu de temps dessus.
Tout à fait.
Et puis, on se retrouve d'ici un petit mois.
Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir été là. Et espère qu'on aura insinué dans ton esprit le ver de terre Nintendo Switch pour qu'il te convainque d'en prendre une aussi. Tu vas voir.
Écoute, j'ai promis à ma chère étendre que je ne remettrai plus jamais les pieds dans Warcraft ou dans un jeu, donc non.
Bon, ok, et ben tant pis. Allez. Bon courage pour ton meeting. Ciao, Jeff.
D'ailleurs, c'est marrant parce que tous mes amis, c'est hallucinant, moi j'ai la moitié du bureau, donc près de 10 personnes qui ont acheté la Switch. Enfin, plus de 10 personnes. Ah ouais, hallucinant. Et alors qu'il n'y en avait que 3 qu'il avait vraiment précommandé de façon ferme, tu vois. Donc il y a eu une vraie vague d'achats juste avant le lancement. Et c'est marrant parce que tout le monde s'échange ses codes. Je veux dire, mais ça sert à quoi d'échanger ses codes aujourd'hui?
Il n'y a aucun jeu pour... Oui, c'est code d'amis, tu veux dire.
Oui, c'est code d'amis.
Oui, non, mais c'est sûr, tu veux essayer. Et je pense que tu as raison. Une fois que la vague Zelda, qui est effectivement l'un des jeux qui a les meilleurs reviews de l'histoire du jeu vidéo, c'est vraiment un system seller parmi les system sellers.
Il est vraiment bon, quoi.
Il est très bon, on est d'accord.
C'est pas juste un Zelda, quoi. C'est pas juste le nom, quoi.
C'est certain. Mais au-delà de ça, je pense qu'il va y avoir après quelques mois de tranquillité. Donc ne vous précipitez pas vous aussi. Il y a eu cet effet d'excitation, c'est certain, au moment du lancement. Mais je pense que le vrai, comme on le disait à plusieurs reprises, le vrai lancement, enfin le vrai moment où on pourra la recommander, ça sera en fin d'année, quoi. Une fois qu'il y aura.
Moi, ce qui me rend fou, c'est qu'il y a encore des stocks, tu vois, dans pas mal de boutiques, même en ligne. Et malgré ça, t'as quand même la cote de l'occasion qui est genre à 100 ou 150 euros au-dessus du prix neuf.
Ouais, non, mais ils arrivent les stocks tous les quelques jours, mais. Ouais.
Ce qui m'a fait halluciner, c'est que j'avais acheté l'édition limitée Zelda. C'était une centaine d'euros, je crois. Mais là, il la vend 200 euros sur Amazon.
en occasion, moi, tu veux dire.
Oui, en occasion. J'ai annulé cette version. Moi, je ne sais même pas pourquoi. J'aurais pu me faire un bon bénéfice de 100%.
Bah écoute, à retenir pour la prochaine fois. Mais bon, en tout cas, effectivement, impression plutôt positive. On ne sait pas ce que ça veut dire pour le long terme de la vie de la console. Il est tout à fait possible qu'elle... C'est ça.
Il y a des licences comme FIFA 18 qui sont prévues. Il y a des jeux qui sont... Il va y avoir des très très beaux anciens jeux qui vont être remis au goût du jour sur cette tablette. Moi, je pense qu'ils ont un gros coup à jouer, quoi.
Moi, je pense que le succès supérieur à celui de la Wii U est acquis, quasiment. Enfin, oui, il est acquis. Ça serait difficile de faire moins bien, on va dire, mais tout de même. Il n'y a pas d'illusion sur le fait qu'elle pourra venir concurrencer les autres consoles principales, on va dire, la Xbox One et la PlayStation 4. Par contre, il y a, comme on disait, une place à se faire avec... Encore une fois, je le répète, ce concept qui fonctionne de machine qu'on peut brancher sur sa télé et qu'on prend avec soi, parce que pour certains types de jeux, pas pour tous vu la puissance, mais pour certains types de jeux et pour certains jeux, eh ben on se dira pourquoi acheter sur une autre machine si on peut l'avoir sur celle-ci qui quand ça fonctionne sur la télé et qu'en plus je peux le prendre avec moi. Donc voilà, pari réussi sur le concept et sur le lancement, c'est évident. Voir ce qui se passera pour la suite, quoi.
C'est sûr.
Ouais. Voilà. Et tu le résumes très bien. C'est un produit sexy. Et encore une fois, quand on l'avait vu et avec les annonces et tout ça, au tout début, les auditeurs du rendez-vous jeu s'en souviennent, en janvier, beaucoup de choses ont changé depuis janvier, hein, vraiment, à commencer par le prix qui est passé sous la barre des 300 euros. Et puis beaucoup d'annonces de jeux, notamment indépendants, mais il n'empêche. Mais donc, j'étais pas aussi convaincu du tout, à l'annonce.
Moi, j'exagère, mais j'ai vraiment l'impression que, comme à l'image de Zelda, dont on parlera dans ton podcast jeu, mais ils ont tué un peu l'esprit Nintendo avec cette console, mais pour le meilleur, en fait.
Ils se réinventent un petit peu dans la continuité.
C'est un Zelda, mais ils ont tué Zelda. Tu vois,
réinvention dans la continuité, voilà
des
une
tests
phrase.
Et ils ont tué Zelda, mais pour moi, c'est une des... Je parle des consoles récentes de Nintendo, elle ressemble pas à une Nintendo, quoi.
C'est
quand
vrai,
regardez enfin... la Wii U, elle était pas sexy, quoi, cette console.
Bah disons que clairement il y a une filiation avec cet écran qui était déporté avec la Wii U, mais dans la comme on le disait tout à l'heure, l'impression qu'on a en tenant la machine n'est pas la même. Toujours, même avec les consoles portables, hein, la DS, la 3DS, ça faisait un petit peu plastique, ça faisait un petit peu jouet. Là, on a l'impression d'avoir quelque chose de solide dans les mains. Donc oui, il y a certainement une rupture avec le Nintendo, mais c'est vraiment, enfin, on va faire tous les poncifs du genre. C'est vraiment la rupture dans la continuité parce qu'on a énormément de continuité avec ce qui fait la puissance et la force de Nintendo.
Donc
peut-être qu'on retrouve qu'on voit enfin après une sorte de traversée du désert avec la Wii U et moi je dirais même avec la Wii, parce que pour moi la Wii était une console qui a un succès qui n'avait pas grand chose à voir avec les entre guillemets vrais gamers auxquels je parle quand je parle de console ou de jeux sur PC. Mais donc depuis des années, peut-être qu'on avait cette traversée du désert de Nintendo et puis là une possible sortie. Donc je l'espère en tout cas. Avec l'ironie étant que sur la Wii U, ils ont sorti certains des meilleurs jeux qu'ils ont fait de leur histoire. Hein. Donc je suis tout à fait conscient
de
la chose.
Non, mais franchement, c'est une console que je n'ai pas achetée. C'est la seule console
Nintendo que t'as pas achetée.
Non, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et puis même, j'ai acheté la Xbox One S, donc tu vois quand même le délire où j'en suis. Mais ouais, non, c'est quand même... Bon, bref, moi, je suis plutôt enthousiaste.
Convaincu.
D'ailleurs, c'est marrant parce que sur Frondroid, on fait d'excellentes audiences sur la Nintendo Switch, alors que c'est pas directement lié à nos problématiques qui est Android. Mais bon, finalement, ça rentre parfaitement dans notre problématique qui est la mobilité. Donc,
Ouais. Mais il y a mais tout à fait. Je crois qu'il y a une sorte de d'effervescence qui s'est créée autour de cette Switch, qui était, c'est vu les conditions du lancement, c'était un petit peu le meilleur scénario possible, quoi. Donc voilà, ouais. Vu le manque de jeux, on va dire surtout.
Non mais
donc,
sans Zelda, voilà. Ça aurait pas été la même.
Ah bah non, mais évidemment. C'est vraiment le Zelda qui a été la goutte d'eau, mais le truc qui a fait déborder le vase, parce que c'est pas juste un bon jeu, c'est un jeu excellentissime selon tous les reviewers. Donc là, forcément, ça a créé un effet d'entraînement, on va dire. Bon allez, on laisse de côté la Switch et Nintendo et on fait une toute petite pause pour remercier les auditeurs qui soutiennent le Rendez-vous Tech. Vous le savez, le Rendez-vous Tech est une émission qui est financée à 100% par ses auditeurs, par les auditeurs qui choisissent de mettre la main au portefeuille. Sans eux, l'émission n'existerait sans doute pas. En tout cas, j'aurais beaucoup plus de mal à manger et j'aime bien manger et payer mes factures. Donc, je les remercie du fond du cœur. Et notamment, je remercie aujourd'hui Yann Fécamp, Julien Garcia, Sylphoun 1, Julien Croin et Bruno Fourcroix. Merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission, financièrement en particulier bien sûr, mais ceux qui écoutent et qui font partie de la communauté du Rendez-vous Tech et de tous les podcasts que je produis. Vous le savez, c'est un privilège que de faire partie de cette communauté que nous formons tous ensemble plutôt. Et quand je vois la manière dont se comportent certaines communautés sur Internet, je me dis que on est vraiment bien chez soi et je suis vraiment privilégié que ce chez soi soit composé par vous tous. Donc merci à vous tous d'être avec nous et merci encore une fois en particulier à ceux qui nous soutiennent. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez sur patreon.com/rdvtech. Et bien sûr, l'adresse est dans les notes de l'émission. Partout où vous pouvez trouver l'émission, vous trouverez cette adresse de Patreon également. On continue un tout petit peu avec le jeu vidéo, avec Microsoft qui a annoncé le Xbox Game Pass qui est disponible bientôt, enfin dans les mois à venir sur Xbox et ensuite sur PC, qui est une sorte de Netflix du jeu vidéo, mais contrairement au PlayStation Now, qui est un autre Netflix du jeu vidéo, les jeux ne sont pas streamés, mais on les télécharge, on a accès à une centaine de jeux qui sont téléchargeables directement et puis du coup on va y jouer en local comme un jeu normal hein, qu'on aurait acheté sur le marché de n'importe quel store en ligne. Mais là où c'est hyper intéressant à mon sens, c'est pas tellement cette différence entre streaming et téléchargement, c'est plutôt le tarif. C'est-à-dire qu'il s'aligne sur les $10 d'abonnement mensuel qu'on a sur Netflix et sur les autres services de ce type, hein, que ce soit, je sais pas, Spotify ou autre. Et
on du l'a coup, sur on a... la Shield, avec.
Notamment, oui, tout à fait.
J'ai oublié comment ils s'appellent. Désolé.
c'est Shield Now, non? GeForce Now?
C'est GeForce Now, je confonds avec GameStream, qui est la techno de locale. Voilà.
Et du coup, avec cette, au-delà du fait que est-ce que c'est intéressant ou pas avec le nombre de jeux, le catalogue qui pourra être adapté, le tarif me paraît très intéressant parce que ça pourra peut-être faire en sorte que d'autres acteurs de ce milieu devront s'aligner sur ce tarif des $10 qui semble être devenu à peu près le standard pour tous les services de ce type-là, quoi.
Ouais, bah, tu as Nvidia qui va lancer son service sur Mac et PC, mais je crois que c'est $30, hein, un peu plus même.
Oui, c'est au temps,
Shadow
en
qui
fait.
A $30 aussi, qui est un peu différent, mais qui finalement résout aussi le problème de l'accès au jeu.
Mais ça, c'est des services différents parce que
le truc de Nvidia,
Shadow, bon, on en a beaucoup parlé, c'est très différent. Le truc de Nvidia, c'est à l'heure. Là, c'est vraiment, on parle des services d'abonnement forfait. Quoi.
Ouais, effectivement, donc c'est plutôt donc, GeForce Now et puis bien sûr les Netflix & Co. Quoi.
Netflix, PlayStation Now, etc. Ouais. Donc voilà, à surveiller du coin de l'œil. Microsoft a annoncé qu'ils revoyaient entièrement leur roadmap du HoloLens, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une deuxième version de l'appareil qui sera disponible bientôt comme c'était prévu. Et par contre, ils vont lancer complètement le HoloLens en 2019. Donc on n'y est pas... encore tout de suite, mais ils prévoient un lancement et ils ont renommé d'ailleurs le... C'est plus Windows holographique, c'est Windows Mixed Reality, je crois, ou Merge Mixed Reality, je crois.
Et du coup, Microsoft ils vont... VR, je crois, non?
Non, c'est Mixed VR.
Windows holographique, non, je sais pas.
Alors
non,
Windows holographique, c'était le nom jusqu'à maintenant et ils l'ont changé. Et bon,
ils ont annoncé du coup que à partir de l'automne 2017 et puis ensuite 2018, il va y avoir toute une série de produits en VR et en AR, donc qui auraient été mixtes.
Et le HoloLens en lui-même sera lancé en 2019 pour de bon. Et donc c'est le lancement commercial du coup. Et c'est alors les choses peuvent changer d'ici 2019, mais ce que ça veut dire, c'est que le lancement du HoloLens est prévu pour 2019. Donc on a maintenant une date, un moment auquel on pourra effectivement n'importe qui pourra l'acheter.
C'est marrant, ils accélèrent parce qu'il y a aussi l'annonce du coup du lancement des premiers casques en fin d'année à partir de $300. Donc puis il y a eu une version de Fallout 4 VR aussi qui a été annoncée et qui sera compatible avec la nouvelle Xbox.
C'est ça. Donc on a effectivement la réalité virtuelle qui arrivera sur la nouvelle Xbox qui devrait être annoncée à l'E3. On a également un consortium qui est en train de se former pour développer des standards sur la réalité virtuelle de manière à ce que tous les acteurs soient compatibles entre eux, et on en a un certain nombre, pas tous, mais un certain nombre qui sont présents dans ce consortium parce qu'ils se rendent compte finalement qu'ils sont un petit peu tous partis dans une direction individuelle, et que pour vraiment se lancer, la réalité virtuelle a besoin d'intercompatibilité, a besoin de standards. C'est le rôle des standards dans toutes ces industries, c'est le fait de faciliter une plateforme commune qui permette à chacun ensuite de se développer individuellement. Et ils ont sauté cette étape dans la réalité virtuelle, ou disons, c'est pas qu'ils l'ont sauté, mais on a eu un lancement d'industrie comme on en voit souvent. C'était le cas pour les ordinateurs personnel, hein, tout le monde se souvient de l'époque des ZX Spectrum et Commodore et Atari ST, etc., jusqu'à ce que les standards du PC arrivent et mettent tout ça à plat. Et ben, ils voudraient très très vite standardiser tout ça. On a vu ça à la GDC, à la Games Developer Conference. Donc peut-être qu'on aura un marché plus sain qui va se mettre en place dans les mois et les années à venir pour la réalité virtuelle. Et il est encore temps, avec tous ces développements dont parle notamment Microsoft, avec des constructeurs qui vont arriver avec des casques meilleur marché. On voit notamment que le PlayStation VR s'est vendu à presque 1 million d'exemplaires, ce qui est un petit peu plus rapide que ce qu'espérait Sony à l'origine. Et Oculus qui baisse le prix de son Oculus Rift, etc., etc. Donc,
d'ailleurs, j'ai testé pendant le salon les nouveaux accessoires de HTC Vive, qui sont très impressionnants et qui redonnent un petit peu, qui m'ont redonné goût un peu à la VR.
Tu parles des nouvelles manettes de contrôle.
Même les capteurs sur les pieds.
Ah oui.
Le pistolet là, qui est aussi traqué. Bref, c'est vraiment.
Mais alors, attends, je t'interromps. Les capteurs sur les pieds, les mains, dont on avait entendu parler déjà, qui permet de visualiser à la machine de visualiser l'ensemble du corps de la personne. C'est vraiment convaincant, ou ça fait gadget quand même de se dire bon, on s'en fout si c'est où nos pieds sont, quoi?
Non, c'est vraiment convaincant. C'est, pour moi, c'est vraiment. D'ailleurs, il y a un article sur Numerama qui est assez fou, qui dit Vive et HTC redonnent un coup de pouce à la réalité virtuelle. Et toutes les personnes qui ont testé ça, donc le Vive Striker, etc., ont été vraiment. Surpris du fait que on peut vraiment améliorer l'expérience avec des trackers supplémentaires. Que ce soit au niveau du système audio ou au niveau du tracking.
D'accord.
C'était assez surprenant, je dois l'avouer.
Bah écoute, donc la réalité virtuelle va plutôt pas mal, même si elle était un petit peu moins présente du Mobile World Congress. Je pense que c'est mécanique, en fait. La raison pour laquelle elle était moins présente du Mobile World Congress, c'est qu'on se rend compte que la réalité virtuelle nécessite du matériel dédié, et que les expériences qu'on peut avoir avec simplement des téléphones qu'on met dans un petit boîtier devant les yeux, eh ben c'est tronqué, et du coup, c'est pas convaincant. Moi, c'est comme ça que je l'analyse, mais bon.
C'est sûr que je pense qu'ils ont poussé au maximum leur système avec les technos actuels, et qu'il va falloir peut-être ce que fait Microsoft, passer une étape supérieure en termes de technologie, ou derrière continuer à jouer un peu à espèce de du prix de l'esprit, ou Capcom commence un petit peu à aller plus loin dans les expériences de jeux vidéo, etc. Ou même de services comme l'éducation. Mais bon, moi je pense qu'il c'est encore quelque chose à bien surveiller, quoi.
Oui, oui, non, je pense qu'on est d'accord. La VR, même s'il y a des débuts, des démarrages chaotiques, on est pas encore. Je sais pas si ça continuera.
Bah, on va dans la bonne direction. C'est après, ça. C'est ça. À quelle allure, difficile de l'estimer. C'est difficile de savoir à quelle vitesse on va quand on regarde le paysage défiler devant les yeux.
C'est ça, ouais. YouTube a annoncé un service qui s'appelle YouTube TV, qui est en fait la télévision classique. Ça coûte $35, donc ça inclut toute la télévision, presque toute la télévision, on va dire 30 chaînes de câble, plus YouTube, plus un DVR dans le cloud, etc., etc. Et c'est une approche assez intéressante de YouTube parce que aux États-Unis, il faut pas oublier qu'il est très compliqué d'avoir la télé sans payer. C'est vraiment, enfin, on peut mettre une antenne quelque part, mais on a quasiment rien, quoi. Il faut vraiment, tout passe par le câble satellite, surtout le câble d'ailleurs. Et donc, YouTube propose un service qui est en fait toute la télé par Internet, tout simplement. Et pour attirer les clients, ils ont cette offre où ils vont avoir les chaînes normales, quoi, y compris des chaînes de sport, etc. Donc voilà, c'est une stratégie curieuse pour YouTube, mais c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place, un des éléments de ce qu'ils sont en train de mettre en place pour réussir à s'imposer un petit peu partout. On a aussi Spotify qui semblerait être en train de préparer un service de streaming audio en lossless. Alors, qu'est-ce que c'est le lossless? Loss, c'est perte, et less, c'est sans. Donc, un système d'audio haute qualité, sans perte de qualité audio, pour $5 à $10 en plus par mois. Mais c'est assez intéressant. Moi, je pensais que quelqu'un d'autre ferait ça avant Spotify. Je pensais même qu'Apple viendrait faire ça avant, une sorte de Apple Music haute qualité alpha, quoi.
J'étais pas vraiment en France, on a Qobuz qui est clairement dans ce
beaucoup
dans ce
de gens en ont parlé. Ouais, c'est
bon, a priori c'est pas non plus fou parce que en fait ils se sont pris quelques polémiques d'avoir retravaillé quelques formats audio et les avoir transformés en FLAC alors qu'à la base ça n'en était pas.
Donc, mais donc si tu veux,
c'est un peu fait déchanter pas mal de gens.
Mais le truc, c'est que Qobuz, certains connaissent, enfin les amateurs connaissent, mais Spotify, tout le monde est déjà abonné. Ils viennent d'annoncer qu'ils sont à 50 000 abonnés payants. L'année dernière, 50... ils étaient... pardon, 50 millions. 50 millions, ils étaient à 30 millions il y a un an. 50 millions,
c'est... Ah, c'est impressionnant le chiffre.
C'est ça. On est à 2,5 fois les chiffres de Apple Music, qui sont leur deuxième concurrent, le concurrent qui est juste derrière. Donc là, mais on a une vraie...
5 millions x 10, t'imagines ? x 10 euros, x 10 c'est dollars. C'est ça. Quoi.
Mais alors, en plus, certaines personnes pourraient être intéressées par l'offre haute qualité.
Si c'était juste 2%, 3%,
ça représente quelque chose.
C'est beaucoup plus facile de déployer ce type de service, tu vois.
Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faudra bien sûr des casques de bonne qualité aussi, parce que si vous les utilisez avec le casque qui est venu avec votre téléphone, évidemment, vous n'entendrez pas du tout la différence.
Et t'as un peu la même chose chez Netflix, parce que par exemple, moi j'ai l'abonnement à 13€ parce que j'ai envie de profiter de Netflix en 4K et il n'y est que sur l'abonnement le plus haut. Mais...
Mm-hmm. Oui, tout à fait. Oui. Et t'as une télé 4K?
Ouais, une télé 4K.
Et tu sens la différence alors?
J'en sais rien du tout, mais... Non, je pense que je sens la différence sur les récentes séries de Netflix.
D'accord.
Où ça devient un peu gênant parce qu'on dirait que l'image est trop réelle. C'est assez marrant.
Ah oui.
Ouais, on a l'impression d'avoir filmé avec son smartphone. Ça donne une impression assez étrange. C'est difficile à exprimer, mais.
C'est comme le passage du film à la vidéo, peut-être, où la fréquence est tellement bonne et l'image tellement nette que, comme on avait vu, c'était le Hobbit. Il y avait, c'était filmé en vidéo.
Ils avaient augmenté le nombre d'images par seconde. Ouais.
C'est ça, oui, ils étaient passés en 60, je crois, et du coup, ça faisait bizarre.
Bah ouais, ça fait un peu bizarre des fois, mais l'image est sublime. Après, est-ce qu'en 1080p, avec de l'upscaling, elle serait aussi superbe? Je pense que ça serait le cas. Bon, et Bon, voilà. Bon, après, moi, je partage l'abonnement avec beaucoup de gens de ma famille. Donc, chez Netflix, c'est aussi cet aspect-là. C'est-à-dire que t'as accès à la 4K, mais tu peux aussi, je crois, le partager à 4 personnes. Donc, utiliser 4 fois
4 flux en même temps. Oui. Ça, je pense que ça va changer. Quoi. Ouais.
J'espère pas.
Ah ben moi non plus. Moi aussi, j'avoue que je le partage avec certaines personnes.
T'as la même chose chez Spotify maintenant. T'as la même chose chez Deezer, etc.
Donc, voilà, peut-être un service haute qualité audio qui arrivera chez Spotify. Et puis pour conclure, deux petits sujets intéressants. Le premier, tiens, que j'ai vu chez Corben aujourd'hui, c'est un moyen de combattre les trolls qui viennent poster des commentaires pas très constructifs, on va dire, sur vos blogs et vos articles. Ça a été développé, je crois que c'est en Norvège. C'est une chaîne d'un groupe de téléradio public norvégien qui s'appelle NRK, dont un interne a développé un système hyper hyper malin pour combattre les trolls. C'est-à-dire que tout simplement, pour laisser un commentaire, il faut répondre à un petit QCM qui vous pose des questions sur l'article en question. Donc, ça veut dire que les gens qui viennent, qui voient le titre et qui veulent commenter tout de suite en étant énervés, eh ben ils vont pas pouvoir parce qu'ils vont pas ils auront pas lu l'article. Tu vois, il faut avoir lu l'article pour pouvoir commenter. Sinon, on peut pas répondre.
C'est un article qui a cartonné sur Numérama la semaine dernière.
Ah oui, ben je l'avais pas vu.
Il a très bien marché.
D'accord. C'est super malin comme système. Du coup, tu t'assures que les gens qui commentent, alors ils peuvent être pour ou contre ou quoi que ce soit, mais au moins ils ont lu l'article, quoi. C'est pas un truc, quand tu vois ça, tu te dis pas c'est un truc qu'il faudrait qu'on implémente, nous, juste pour...
Si, mais en fait, on a eu ce type de réflexion. En fait, les options, elles sont pas nombreuses. On peut couper les commentaires, on peut les réserver aux personnes inscrites, donc là, tu peux un peu limiter les trolls. Ouais. Tu peux aussi mettre des systèmes où tu vas cacher les messages des trolls. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas implémenté, mais que j'ai vu chez d'autres médias. Donc en fait, les trolls n'ont pas l'impression d'être cachés, mais en fait,
ouais, ils sont... Non, mais là, je parle de ce système spécifiquement,
mais
de
système,
QCM, quoi.
En fait, du coup, derrière, il y a un peu de réflexion, parce que soit tu mets un système un peu d'intelligence artificielle qui va générer des questions à partir du texte, parce que comme ça...
Ou alors,
ça
il faut toutes les écrire, quoi.
Voilà. Sinon, c'est aux journalistes, aux rédacteurs de produire les questions au moment de l'article. Donc, ça, c'est un travail supplémentaire à réaliser. Donc,
ouais, bon, autant laisser les trolls alors.
Bah, je pense que s'il y a une boîte, un service qui un peu comme Discus, proposait ce type de service payant aux éditeurs, qui derrière génère de façon automatique ou non des questions sur un article, je pense que ça marcherait.
Ah, idée de start-up, pensez-y. si vous êtes en train de chercher une idée pour vous lancer, peut-être vous pourriez...
Pas une grosse
start-up,
je pense. Désolé, il n'y aura pas une grosse valorisation derrière.
Bah, on ne sait pas. Tu commences comme ça et puis après, tu peux te développer pour d'autres trucs.
Après, il faut pivoter sur un énorme truc.
Non, mais c'est ça. Tu commences avec des commentaires de trolls et puis tu continues avec des drones autonomes qui livrent des trucs Amazon. Non, c'est déjà pris, ça. Okay.
Tu sais que là, on commence à implémenter des petits questionnaires à la fin de la plupart des articles qu'on a, et on est agréablement surpris par le retour qui est de l'ordre de 100 fois plus par rapport au nombre de commentaires, tu vois.
Des questionnaires de quel genre, pour poser quelles questions?
Par exemple, typiquement, on fait un guide d'achat de téléphone, à la fin tu dis parmi les guides d'achat, parmi la sélection de produits, lequel vous a le plus convaincu. Ça, c'est vraiment un truc bateau, mais après tu peux faire des trucs plus évolués sur des questions de société, sur des débats, sur des technos. Et nous, alors qu'on peut avoir genre 100 commentaires, on a 3 000 à 4 000 réponses à la question, tu vois.
Mais à quoi elles servent ces réponses? C'est pour vous avoir des données
Elles donnent déjà une information supplémentaire à l'article. Elle permet un petit peu de faire un peu de...
C'est genre sondage après l'article.
Contenu généré par l'utilisateur. Et puis derrière, elle permet aussi d'un petit peu savoir si le choix était pertinent, les sélections étaient pertinentes, si l'article a bien été lu et a bien été compris. Et en fait, ça, on l'utilise déjà depuis plusieurs semaines. Et on a envie de plus en plus l'utiliser parce que c'est clairement pertinent. Même si c'est pas connecté aux commentaires directement, je pense que ça doit même jouer sur la qualité des commentaires. Parce qu'ils sont juste avant, en fait. Tu vois?
Intéressant. Eh ben voilà, encore une start-up en plus. décidément, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Bon, dernière petite info marrante que je pense beaucoup de gens ont vu passer, c'est cette information sur les méthodes du fisc qui a été trouvée grâce à Google Maps, des piscines qui avaient été construites dans des maisons sans autorisation.
J'ai vu ça passer, c'est trop marrant. Quoi.
C'est vraiment marrant. Du coup, ils ont, je sais plus dans quelle commune c'était exactement. Alors, c'est Marmande, c'est ça? C'est le nom
ouais,
de la.
Ouais, je crois que c'est ça, mais je sais pas si c'est une région ou une commune ou si c'est.
Alors, ouais, c'est la ville de Marmande dans Lot-et-Garonne. L'administration est allée regarder sur Google Maps qui avait des piscines et qui n'en avait pas, de manière à détecter les fraudeurs. Je trouve ça. Absolument
c'est vrai
délicieux.
Que, moi, j'habite en appartement en région parisienne, mais c'est assez fou de voir le nombre de garages, de piscines qui sont construites sans déclaration à l'État. Et derrière, c'est juste une espèce de bonne entente qu'il y a entre voisins qui dit ouais. de pas se dénoncer.
Toi, tu dis rien, moi, je dis rien non plus. Ouais.
Et c'est assez fou, quoi. Je sais que j'ai des amis qui habitent dans le sud et qui donc ont des maisons et tout, et ils m'expliquaient, et c'est partout le cas, en fait. Donc, c'est pas étonnant que derrière, on utilise des systèmes comme des. Et pas, il pourrait utiliser des drones, tu vois.
Ouais, ouais, bah oui. Non, mais tu vois, Google Maps, c'est plus simple, du coup, tout y est déjà, donc. Voilà,
plus,
la technologie.
Il va falloir cacher sa piscine après.
La technologie est pas, oui, tu peux avoir des sortes de bâches qui ont la couleur de la pelouse.
Il faut quand même être fort, là.
Donc, la technologie est vraiment partout pour le pire et pour le meilleur, comme on l'a vu dans cet épisode qui touche à sa fin et pour lequel je vais remercier très chaleureusement, Ulrich d'avoir été là. Jeff est déjà parti. Mais, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver toi et tes amis rédacteurs si les auditeurs veulent en savoir un petit peu plus?
Principalement sur numerama.com et frandroid.com. On a la chaîne YouTube de Frandroid qui commence à être de plus en plus imposante. Ça fait un an qu'on investit dedans et on est content de la communauté qui est autour. Donc on aura principalement des tests produits, de la prise en main. Ça reste très tech, mais c'est notre métier, quoi. Donc ça fait plaisir de voir que le format vidéo sur YouTube, il marche pour nous, sans être complètement des youtubeurs, j'ai envie de dire. On a une émission tech sur Frandroid qui commence un petit peu à prendre sur YouTube, qu'on fait toutes les deux semaines, et qui est marrant, qui s'appelle TechPaf.
D'accord.
Je sais pas si tu avais l'occasion de la voir.
J'étais pas au courant.
On l'a fait une expérimentation il y a 10 jours. On l'a diffusé que sur Twitch. On a eu des très beaux résultats d'audience. On l'a fait genre, je crois, 20-30 000 personnes. Donc,
pas mal.
On l'avait mis en homepage de frandroid.com aussi. Ça
ah est. Oui, d'accord, quand même.
mais ils nous avaient mis au milieu d'émission, on featured sur leur home et on était contents, quoi.
D'accord.
On a touché une population qu'on n'a pas naturellement, qui est un peu plus jeune sur Twitch. On était contents du résultat.
Mais et voilà, du coup, la chaîne YouTube, c'est la chaîne Frandroid, c'est ça?
Frandroid, ouais. Donc, elle, vous retrouverez aussi TechPaf, qu'on fait toutes les deux semaines. Et on a fait 19 vidéos pendant le MWC. Donc, il y a des prises en main. J'ai même participé à celle de LG et BlackBerry, entre autres.
D'accord. Ok.
C'est sympa. C'est sympa. Super. À faire des vidéos comme ça.
Très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Ulrich. Et merci pour ta présence parmi nous aujourd'hui.
Pas de souci. Toujours un plaisir.
Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook, comme vous le savez. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr, le site sur lequel je mets toutes mes productions. Vous retrouverez d'ailleurs le rendez-vous jeu la semaine prochaine avec notre ami Jika, où on détaillera non seulement la Switch, mais aussi Zelda, nos impressions sur le jeu du lancement de la console. Et puis, vous pouvez aussi retrouver des émissions en anglais sur frenchspin.com. Si vous ne pouvez pas attendre pour le rendez-vous jeu, vous pouvez aller écouter Pixels là-bas. Et si vous souhaitez soutenir l'émission, comme on en parlait en milieu d'émission tout à l'heure, vous le savez, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et participer financièrement à la production de cette émission. C'est un système que vous connaissez bien déjà et beaucoup d'entre vous ont sauté le pas. Si vous y pensez, allez jeter un coup d'œil. Ça prend vraiment 2 minutes, 3 minutes à tout casser. C'est hyper simple et hyper rapide et évidemment, c'est hyper important pour nous, donc on vous remercie encore une fois, 1 million de fois. On vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode dans 15 jours. Et d'ici là, on vous fait plein de grosses bises. Ciao, ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.